Qu'est-ce que le mois de novembre m'a enseigné comme erreur à ne pas refaire en 2024? Allez, c'est parti! Bonjour, bonjour mes champions et mes championnes, c'est Bertrand, j'espère que vous avez la forme patate, l'énergie, que tout va bien pour vous. Bienvenue dans Cheveux Blancs et des Longues, le podcast dans lequel nous parlons de création de contenu et d'entrepreneuriat en ligne, même quand on a 40 ans, même quand on n'a jamais fait ça, même quand on nous dit peut-être que nous sommes un petit peu foutus et qu'on devrait laisser la place aux jeunes, ou en tout cas qu'Internet c'est plutôt fait pour les jeunes et la création de contenu c'est plutôt fait pour les jeunes. Moi, vous savez, c'est pas du tout ce que je pense, hein. On va pas attendre la retraite tranquillement dans notre coin. On a des choses à dire, on a des choses à partager, alors autant le faire, que ce soit pour créer un nouveau boulot ou alors pour créer une activité annexe, un side business, une activité connexe. Voilà, moi je pense qu'on a beaucoup beaucoup de choses à faire. Et vous le savez, dans ces épisodes, en ce moment-là, je vous partage un petit peu les coulisses un petit peu de ma vie créative, entrepreneuriale, et je vous donne un petit peu ce qui se passe, un petit peu comme ça, pour vous expliquer des choses à ne pas faire, hein. Ça aide vraiment des choses à ne pas faire. Et vraiment, je prends mon cas parce que là, j'ai fait le bilan un peu de mon mois de novembre. On est début décembre, donc je regarde un petit peu qu'est-ce que j'ai fait sur le mois de novembre. Et franchement, c'est pas terrible. Je peux pas être très fier de moi sur ce coup-là. En tout cas, il y a des trucs sur lesquels je peux pas être très fier. Alors déjà, je vais le dire, j'ai un chiffre d'affaires en novembre sur les ventes de formations, de produits en ligne qui est vraiment très faible. Mais quand je dis très faible, c'est vraiment très faible. Là, je parle de quelques dizaines d'euros. Je parle pas en centaines d'euros, je parle en dizaines d'euros. En tout cas, très très loin de mon objectif de faire pas des centaines d'euros, mais plusieurs milliers d'euros, ou en tout cas quelques milliers d'euros, pour être confortable. Et ben là, j'en suis très 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 loin, mais vraiment tellement loin. Oh là là, allez, je vais vous donner un chiffre quand même, que vous allez voir. J'ai fait 55 euros de vente de formation en ligne ce mois de novembre. 55 euros. Mais c'est quoi cette histoire? Comment est-ce possible? Bah, tout simplement parce que je n'ai pas fait le travail qu'il fallait faire. Et ça, c'est un truc que je devrais vous dire tout le temps, toutes les semaines. Et en tout cas, je devrais l'écrire, hein, je devrais prendre le mur que j'ai en face de moi, là, le mettre en noir, là, comme ça, sur le mur, là, que j'ai en face de moi, dire: attention, attention, n'oublie pas de faire des nouvelles offres, n'oublie pas de faire des nouveaux produits. Que au pire, si tu fais pas de nouveaux produits, fais de nouvelles offres, et des offres qui sont pertinentes, intéressantes, de bien les proposer, de bien les marketer. Parce que vraiment, en fait, je le vois, hein, autant sur septembre, octobre, j'avais fait de nouveaux produits, j'avais fait des offres, j'avais fait des opérations spéciales, j'avais fait plus de mails, j'avais aussi profiter de ma migration vers Podia, de toutes mes formations pour faire des nouvelles offres. Donc, j'avais vendu pas mal de produits. Là, franchement, je n'ai rien fait. Enfin, je n'ai rien fait. Un petit peu à un bout de, de Black Friday, un petit peu dans un coin là que j'avais fait comme ça. Pas vraiment, vraiment très convaincu. Puis sur le reste, en fait, j'ai un petit peu laissé passer les choses. Il y a des mails que j'ai pas fait, il y a des semaines où je n'ai pas fait de mails. Je le dis, j'ai pas fait de nouveaux produits, alors que j'ai des nouveaux produits qui sont en préparation, que je suis en train d'imaginer. Certes, il y a des trucs dont je rêve, mais je n'avance pas assez vite dessus, et parce que ça, c'est entièrement ma faute. Et en fait, j'étais assez fier je me disais, sur ce mois de novembre, j'ai quand même travaillé, j'ai fait avancer pas mal de choses, même si c'est vrai que j'ai perdu beaucoup de temps sur des choses familiales, sur des choses personnelles, du temps que je passe à droite à gauche pour régler différentes choses. Bon, là, ça va se calmer. Normalement, le mois de décembre devrait être plus de temps au-dessus. Quoique, bien sûr, à la fin, la dernière semaine, c'est Noël, à partir du 18-19 décembre. Bon, j'ai pas trop regardé le calendrier, mais on va dire, quoique les vacances scolaires, c'est au 22 décembre. Donc, on va dire jusqu'au 22 décembre, après, on pourrait dire, c'est assez bien rempli, je peux faire pas mal de choses. Bon, ça va quand même très vite, parce que ça veut dire qu'il reste que 2 semaines vraiment après ça être les vacances scolaires. Il y a les fêtes de Noël, les fêtes de fin d'année. Enfin voilà, c'est un peu sportif quand même à la fin d'année, comme toujours. Donc ça se calme, mais ça se calme pas, quoi. Voilà. Donc je peux te dire, là, il y a quand même une dizaine de jours sur lesquels il va falloir un peu mettre un petit peu plus d'entrain sur certaines choses. Et ça m'amène surtout une grande leçon, c'est que en fait, j'ai pas cadré assez fortement certaines choses. Et j'ai pas cadré, notamment, mon calendrier, des nouvelles offres, des nouveaux produits, quand est-ce qu'ils doivent sortir, me mettre un objectif. Et là, franchement, je suis tombé sur la fameuse loi de Parkinson. C'est-à-dire que, vous savez, je veux dire, bah, tiens, si j'ai un temps, un certain temps, je vais prendre tout le temps que j'ai pour faire le produit ou faire la tâche que j'ai à faire. Donc, si c'est raisonnable le délai, hein, on se dit, voilà, si j'ai un délai raisonnable, si je me donne 2 jours, je vais mettre 2 jours. Si je me donne 2 semaines, je vais mettre 2 semaines. Si je me donne 2 heures, peut-être je peux le faire en 2 heures. Ça dépend si c'est un délai raisonnable. Eh ben, je suis vraiment là-dedans. Eh ben, je suis tombé là-dedans. Mais je suis tombé là-dedans sur plein de trucs. Hein. J'avais une amende à contester parce que je crois que c'était un petit peu exagéré. Eh ben, sur un stationnement qui dépassait un peu. Parce qu'un jour où je suis tombé en panne, où j'ai garé la voiture comme j'ai pu sur le côté de la route, j'ai pris une amende, il y a une contestation. J'ai 45 jours pour la contester, j'ai attendu le dernier moment pour le faire. Sur mes offres, bah c'est pareil en fait. Et puis au bout d'un moment, bah, il y a un petit événement, il y a un truc qui se passe pas comme prévu dans la journée. Ça se décale. Et finalement, je le fais pas comme je veux. Et au moment où je le fais un peu trop rapidement ou je le fais mal. Voilà, donc tous ces genres de petites choses comme ça, alors... Et ça m'interroge sur mon fonctionnement personnel, ça m'interroge sur le fonctionnement de mon cerveau, ça m'interroge sur mes habitudes. En creusant un petit peu, et alors si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je me pose des questions sur divers modes de fonctionnement de mon cerveau. Et bon, bah là, je suis en plein dedans, en fait, vraiment en plein dedans. C'est pas de la phobie administrative, c'est pas du désorganisation, parce qu'en fait, j'ai structuré mon temps, je dis sur tel jour, je travaille là-dessus. Mais en fait, c'est vrai que je n'ai pas posé assez bien des dates d'objectifs, et notamment des objectifs en disant bah, des nouvelles offres. C'est-à-dire que, comme j'avais prévu des produits, que ces produits-là, ils sont un peu en retard, normalement, j'aurais dû remplacer ces produits en tout cas, par des offres sur des anciens produits, remarketer certains produits, modifier un peu certaines choses, faire des packs. J'avais des offres qui étaient intéressantes à faire sur, bah oui, des formations que j'ai lancées il y a quelque temps que je pourrais relancer. Et ben tout ça, en fait, je ne l'ai pas fait. Et donc, vraiment là-dessus, sur mon fonctionnement, il y a un élément que je dois vraiment, 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 sur lequel je dois vraiment faire attention, je dois vraiment me concentrer dessus, c'est vraiment d'écrire certains objectifs, et notamment les objectifs de dire, toutes les semaines, je sors une nouvelle offre avec 1 ou 2 mails pour le vendre, des stories sur Instagram, un post sur Instagram pour le vendre, pour dire que ça existe. Et puis, je dois aussi mettre du temps systématiquement chaque semaine sur les nouveaux produits. Et puis, ben, une semaine, je lance un nouveau produit, une autre semaine, je fais une offre. Je parle, par exemple, de mes coachings. Ça fait je ne sais pas combien de semaines que je n'ai pas parlé de mes coachings, par exemple. J'ai ma formation Coureur plus vite, j'en ai pas trop parlé. Coureur débutant, j'en ai pas trop parlé. Ma formation SAM, j'en ai pas trop parlé, même si là, je sais un peu pourquoi. Et normalement, ma grosse formation SAM, je vais la refaire. Je pense que je vais la refaire sur un autre mode un petit peu, avec des vidéos qui seront refaites différemment. Mais ça, je vais la refaire. Donc, c'est aussi pour ça que j'en parle un petit peu moins. Et en fait, si je me cadre pas, si je me mets pas un calendrier vraiment en disant je dois faire ça, 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 et si je m'y tiens pas, ben je me rends compte que dans mon fonctionnement, je ne le fais pas. Et en fait, ça peut être catastrophique. Alors ce mois-ci, bon, ce qui tombe bien, c'est que, et je le sais aussi, et je pense que ça joue aussi là-dessus. C'est-à-dire que j'ai pas trop la corde au cou ce mois-ci parce que j'avais la publicité octobre et novembre qui a été vendue sur Sport Nutrition et sur Kilomètre 42, sur mes autres podcasts, et que c'est une publicité qui est vendue à Airbnb, donc ça fait quand même une bonne facture à la fin du mois, des 2 mois. Et que ben, l'un dans l'autre, je sais que mon chiffre d'affaires était quand même assuré par ces ventes publicitaires. Mais en fait, c'est là où je m'en veux un peu, quand même, où je dis quand même, je suis couillon sur cette histoire-là. C'est que, en fait, ça devrait être un matelas en fait de secours, ces ventes de publicité, ou un bonus, hein, parce que une fois que les annonces sont faites, moi j'ai juste à produire les podcasts, donc c'est ce que j'ai fait, je me suis concentré sur la publication des podcasts, mais en fait, le temps que j'avais de libre, hein, parce que une fois que la publicité est programmée et tout, j'ai plus rien à faire en fait, hein, ça fonctionne tout seul, moi j'ai juste à produire les podcasts. Et ben, ça me laissait du temps, normalement, pour faire mes offres, faire mes produits, enfin, faire tout ça, quoi. Et donc, là, je ne l'ai pas fait. Et pourquoi je ne l'ai pas fait? Ben, parce que je me suis peut-être dit, ben, je sais que j'aurai ces rentrées-là, j'aurai ces factures-là. C'est pas, comment dire, c'est pas vital, peut-être, sur cet aspect-là. Mais n'empêche que, eh ben, c'est quand même extrêmement dommage. C'est vraiment extrêmement dommage parce que par rapport à mes objectifs, par rapport à mes envies, par rapport à des choses que je voudrais financer, je vous ai parlé de dire je voulais prendre des coachings, je voulais prendre des formations dans des nouveaux domaines. Par exemple, cette semaine, j'ai repéré, il y a 2 jours de formation que j'aimerais faire, par exemple à Lyon, qui sont sur de la nutrition sportive. Et ben, ces 2 jours de formation ne sont pas très chers en eux-mêmes, hein. Vraiment, ils ne sont pas très chers. Mais c'est sûr que si j'avais vendu plus, j'avais tranquillement la trésorerie pour réserver, pour dire je pouvais y aller tranquillement, ça fait sur 2 jours, donc passer une nuit à Lyon, etc. Il faut faire plus de calculs, de même que j'avais 1 ou 2 services dans lesquels j'en aurais bien profité, ou dans lesquels, par exemple, serait intéressant que je prenne des abonnements annuels, que ça me faciliterait la vie et tout, je peux pas trop le faire. Pourquoi? Parce que j'ai déconné. J'ai déconné, je le dis très clairement, j'ai déconné là-dessus. Et là, vraiment, quand j'ai regardé ça, j'ai dit, oh là là, franchement, là, Bertrand, faut pas le refaire. Un autre truc que je dois pas refaire, c'est mon point 2. J'ai aussi très peu de nouveaux abonnés email. L'autre jour, j'ai envoyé un mail et j'ai vu 8 désabonnements. Alors, 8 désabonnements sur 1500 inscrits, c'est pas très grave. Ce qui m'a choqué, en fait, sur l'histoire, c'est que sur les 1500 personnes à qui j'ai envoyé mail, en fait, après, quand je renvoie un mail à ces personnes-là, je suis plus qu'à 1400 et quelques. Et pourquoi, vous allez me dire, ça veut dire quoi, ça signifie quoi? Et ben, en fait, c'est que, il y a pas longtemps, sur Podia, j'ai basculé sur un nouveau plan de paiement de mes, vous savez, des forfaits de mail, qui passait, en fait, en dessous de 1500, c'est un tarif, au-dessus de 1500, c'est un autre tarif. Et, en fait, j'étais obligé à un moment de passer au-dessus des 1500, parce que j'avais dépassé ce cadre-là, et je suis repassé en dessous. Donc, ça veut dire que, à un moment donné, si ma base mail grossissait, elle m'a obligé à prendre un abonnement plus important, et là, elle est en train de diminuer. Elle est repassée en dessous de cette fameuse barrière. Et en fait, j'ai regardé le mail d'avant, j'avais aussi 7-8 désabonnés. Et donc, c'est logique. Alors, le fait qu'il y ait des désabonnés, c'est totalement logique. Et là, il n'y a aucun problème. C'est comme des gens arrêtent d'écouter les podcasts, des gens arrêtent de regarder le compte Instagram, ils voient moins les publications, ils nous suivent moins, ils sont moins fans, ils regardent moins ce qu'on fait. Et puis, d'autres personnes arrivent. J'ai reçu hier un mail d'une personne qui me dit « Je suis en train de dévorer tous tes épisodes de ton podcast, c'est génial, etc. » Donc, c'est la base logique. Ce qu'il y a en fait, ce que vous devez jamais oublier, c'est que de même que je vous dis, il faut jamais oublier de faire des offres, des produits, de dire que vous avez des choses à vendre et que vous avez à proposer, il faut pas non plus oublier de remplir sa base mail. Je l'ai dit à des personnes en coaching. Certaines personnes ne veulent pas me croire quand je leur dis de ce truc-là. Je leur dis déjà, les réseaux sociaux, c'est bien, mais ça grossit pas forcément très vite. Ça dépend des cas. Des fois, ça grossit vite, des fois, ça grossit moins vite. Mais on peut jamais contacter 100% de nos abonnés sur les réseaux sociaux. Même d'ailleurs, c'est très paradoxal, c'est que des fois on a des publications qui vont toucher, on va dire 15, 20, 30% de nos abonnés. Très peu de personnes en dehors de nos abonnés. Et puis j'ai des publications qui ont touché beaucoup, beaucoup de personnes qui n'étaient pas abonnées à mon compte, donc ça fait des nouveaux abonnés, mais très peu de mes abonnés. Et donc ça permet en fait de se faire connaître, de développer un petit peu le nombre d'abonnés, mais n'empêche que le jour où j'ai un produit à vendre, une offre à faire, quand j'y pense, je suis pas certain de pouvoir parler à toutes les personnes qui sont intéressées. Les personnes qui sont vraiment intéressées, le truc, c'est qu'il faudrait arriver à les déplacer dans une base mail. Alors, j'avais fait une formation il y a quelques années là-dessus, sur ce principe-là, avec MailerLite. Il y a des éléments que j'ai mis en place qui ont changé. Maintenant, je le fais aussi par Podia. Et puis, je mettais une automatisation par MiniChat. Le principe est très simple, c'est que sur Instagram, je mets une publication, une story. Je dis, mettez un commentaire avec tel mot-clé. Et puis, quand les personnes mettent un mot-clé, ça envoie un message, un DM, en fait, tout simplement, avec un lien vers une page dans laquelle ils peuvent récupérer, en fait, un goodies, un truc gratuit, un PDF gratuit, une vidéo, des choses comme ça. Et, en fait, j'ai tilté l'autre jour que mon mini-chat, ça fait quelques temps que je m'étais pas connecté dessus. Alors, je m'étais connecté la semaine dernière pour parler d'un épisode de podcast. Et c'est vrai que, en fait, les épisodes de podcast, j'ai mis en place un truc, c'est que quand on met le numéro de l'épisode sur certains épisodes, en commentaire de l'épisode dont je parle, par exemple l'épisode 219, je parle du post sur l'épisode 219, si vous mettez 219 en commentaire, j'ai envoyé un DM, j'envoie un DM automatiquement en disant voici le lien pour écouter. Ces liens-là, en fait, sont des liens directs vers la plateforme d'écoute. Il n'y a aucune collecte de mails. Par contre, j'en avais qui me permettaient de collecter des mails. Par exemple, j'avais fait un anti-guide de la course à pied. J'avais fait, par exemple, sur le podcasting, j'avais fait des guides aussi, podcast expresso, comment monter son podcast plus vite, des choses comme ça. Et bien ça, je n'ai fait aucune publication parce que les automatisations fonctionnent. Le pire, c'est ça, c'est que l'automatisation est déjà faite, donc je n'ai aucun boulot à faire. autre que faire une publication, mettre le mot-clé, hein, dire voilà, mettez le mot-clé, vérifier que ça marche, et de dire, bah voilà, vous voulez avoir plus d'astuces là-dessus, j'ai fait un petit PDF qui vous explique tout ça, et puis téléchargez-le. Là, ça laisse un mail, et puis moi derrière, je peux déclencher en fait, par exemple, une petite séquence de mail pour vendre un produit, une petite séquence de bienvenue, je peux rajouter dans les newsletters, envoyer des mails toutes les semaines, etc. Enfin voilà, ce truc-là, faire entrer un peu de monde dans mes tunnels de vente, enfin tout ça. Et ben je l'ai pas fait. Et donc je m'en suis rendu compte parce que d'une part je me disais, ça fait un bout de temps que je me suis pas connecté sur ManyChat quand même. Et donc sur ManyChat, ma dernière automatisation était pour des épisodes de podcast. Donc la semaine dernière. Et puis j'ai vu quelqu'un qui s'est abonné en fait à un vieux un truc que j'avais fait cet été sur mes leçons bypacking. Et donc je dis bah tiens c'est marrant leçons bypacking. Donc ça veut dire qu'il y a c'est un post que j'ai fait longtemps. Mais je dis mais c'est vrai que ça fait un bout de temps que j'ai pas parlé de ça. J'ai un anti-guide. J'avais fait un anti-guide de la course à pied dans lequel j'avais prévu 10 images. J'ai publié que 2 images sur les 10, par exemple, où j'ai publié 2x2, un truc comme ça. Mais ça veut dire que j'ai au moins 5 ou 6 images à publier de mon anti-guide. Le concept même, quoi. Et puis, donc, tout ça, je l'ai pas fait. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, j'ai ma base mail qui ne grossit pas, qui même va se vider à chaque fois que j'envoie des mails parce qu'il y a toujours des gens qui veulent se désabonner, qui sont plus intéressés, d'autres personnes, les boîtes mails sont pleines, donc il y a toujours du nettoyage qui se fait. Des gens cliquent pas forcément dessus. Donc, même si il y a plus de 50% des gens qui ouvrent les mails, il y a toujours des gens qui se désabonnent, il y a toujours des gens comme ça qui ont des boîtes qui changent, qui sont remplies et tout. Donc, on perd toujours des abonnés. Ça, ne l'oubliez jamais. Donc, la logique, c'est de dire toujours, on fait un truc sur les réseaux, par exemple, sur les réseaux, je fais ça, ça, ça. Je dois arriver à transformer les abonnés des réseaux sociaux en abonnés mail. Ces abonnés mail, en fait, pour leur proposer des produits à vendre, mes services, leur dire que je fais un nouveau truc, mais aussi dire que j'ai un nouvel épisode de podcast qui sort, que j'ai fait une nouvelle vidéo, que j'ai fait un nouveau un truc qui est en train de se préparer, poser des questions, interagir, discuter, tout ça. Je le dis très clairement, je le dis à toutes les personnes que j'ai en accompagnement, en coaching, la base mail, c'est vital. Il y a des personnes qui résistent. Il y a vraiment des personnes qui résistent en disant « je sais pas trop ce que je vais raconter ». Pourtant, elles ont plein de choses à raconter, mais vraiment plein de choses à raconter qui seraient intéressantes pour les personnes qui les suivent, même s'il n'y a pas grand monde. Et le jour où elles veulent lancer un truc de coaching, elles veulent lancer un petit produit, elles veulent essayer de trouver des gens avec qui elles pourraient aller courir, je sais pas, parce que j'ai des cas dans ces cas-là, elles voyagent et tout en disant « tiens, je serai dans telle ville, on pourrait se rencontrer » ou « parce que vous aimez bien ce que je fais dans mon podcast », des choses comme ça. Eh ben, elles peuvent pas le faire facilement parce qu'elles n'ont pas de base mail. Donc, l'importance de la base mail, il est là. On dit souvent en marketing et que l'argent est dans le mail. En fait, il est pas trop sur les réseaux. Alors, c'est pas tout à fait vrai quand même, hein, parce que si vous avez un compte Instagram, vous pouvez transformer des ventes d'un compte Instagram. Vous pouvez faire des ventes à partir d'un compte Instagram. Surtout avec les liens dans les stories, ça marche très bien. Et puis même avec ManyChat, on pourrait le faire très bien. Mais c'est vrai que c'est quand même intéressant d'avoir les adresses mail des gens, tout simplement pour leur envoyer des mails réguliers, pour discuter, pour échanger, pour avoir des retours, pour leur dire sur quoi on travaille, et puis pour leur faire des offres. Donc là aussi, ce truc-là, il faut que à partir des jours qui viennent, là, dès demain d'ailleurs même, même dès aujourd'hui si je peux, c'est de dire, tiens, aujourd'hui je pourrais faire une publication en disant, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez télécharger j'ai fait un mini guide sur le sujet, par exemple sur ma formation SAM. J'ai SAM en 2 minutes pour comprendre toute la philosophie SAM en 2 minutes. J'ai ce truc là et je pourrais tout simplement faire un post et puis pour essayer de récupérer quelques contacts comme ça. Mon compte Instagram a grossi, j'ai gagné sur l'année pas loin de 5000 abonnés sur Instagram. Ça fait du monde que je pourrais transférer sur ma base mail. Ça fait du monde que je pourrais transférer sur ma base mail à condition de le faire régulièrement. Je vois des créateurs, par exemple, qui toutes les semaines parlent de leur newsletter. Depuis quand je m'apparais de newsletter dans mes stories en disant tiens, abonnez-vous, je l'envoie tel jour à telle heure. Je ne le fais jamais. Là aussi, je peux me taper sur les doigts. Tac. Alors, plutôt que de me taper sur les doigts, parce que maintenant, c'est fait. L'idée, c'est plutôt de dire comment éviter ce genre de choses. Et là encore, il faut que je sois beaucoup plus strict. Je le vois sur mes organisations. J'ai feuilleté des fois des bouquins sur l'organisation, mais aussi sur le fonctionnement, sur, par exemple, le TDAH. Et des fois, quand je feuillette un bouquin sur TDAH, je me rends compte que toutes les méthodes pour focaliser le cerveau d'un TDAH, c'est toutes les méthodes qui fonctionnent avec moi. Donc, l'autre jour, ça m'a fait un rappel en me disant, c'est vrai que ce truc-là, ça marche bien. Fais-le. Ce truc-là, ça marche bien. Fais-le. Le pire de tout, c'est que certaines de ces choses-là, je le mets dans mes formations, dans mes programmes, et que je sais que quand j'applique, ça marche extrêmement bien pour moi. Mais je sais pas pourquoi, sur ce mois de novembre, je me suis lâché vraiment la grappe, la bride, un peu trop. Et j'ai tellement relâché que finalement, il y a plein de choses que j'ai pas faites. Là aussi, je dois changer ça. C'est d'ailleurs pour ça, je sais aussi que je travaille sur un nouveau petit produit que je vendrai par le biais d'Amazon, qui est tout simplement, vous savez, moi j'ai un bullet journal. Et mon bullet journal, je fais des traits, je fais mon agenda comme ça dedans. J'ai décidé de me faire mon propre bullet journal, en fait, qui soit déjà préfait, sur lequel j'ai plus qu'à remplir les choses. En fait, dans lequel j'ai déjà mon agenda, mon calendrier, les mois sont faits, les objectifs, en fait, remplir les choses, mais où j'ai pas à faire les trains et les dessins, les numérotations de pages, tout ça. Je suis en train de me le faire pour moi. Donc, je vais le faire pour moi, là, comme ça, là, dans les jours qui viennent. Je le mettrai sur Amazon. Si ça vous intéresse, je le mettrai sur Amazon. Et dedans, vous aurez ma méthode pour vous organiser de la même manière que moi. Je sais, ça marche extrêmement bien pour moi quand je le fais. Sur le mois de novembre, je l'ai moins fait. Je sais aussi pourquoi, parce que je vous avais parlé du tracking, je m'étais mis à traquer mon temps. Et en fait, en traquant mon temps d'un côté, je me suis dit, bah, puisque je traque mon temps, je veille plus à ce que je fais. En fait, non, j'ai juste veillé à voir le temps que je passais sur certaines choses. Mais je n'ai pas fait certaines choses que je devais absolument faire. Donc là-dessus, je me vais pas me flageller hein, non plus. C'est fait, hein, voilà. Maintenant, j'apprends de ça et je mets en place une nouvelle stratégie pour dire, eh ben, dans mon bullet journal, désormais, dans mon calendrier, je dois mettre des rappels toutes les semaines. Je dois faire ça, 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 et je ne dois pas rater le truc. C'est la chose la plus importante. Par exemple, la chose la plus importante, qui était à une époque la chose la plus importante du mardi, publier un épisode de Kilomètre 42, faire un mail. Eh ben, je dois vraiment, vraiment le faire, vraiment stratégiquement, et je dois le placer tel ou tel jour, et je dois vraiment le faire. De même que les mails de rappel quand c'est la fin des opérations de vente, enfin tous ces trucs là je dois le faire. Voilà, c'est noté. Et ça m'amène à vous dire que si vous êtes dans cette stratégie là si vous voulez vendre un produit, n'oubliez pas d'en parler de votre produit, n'oubliez pas de faire des offres. La stratégie, elle est simple hein. Vous faites un offre avec un prix, une date limite pour que ça marche. Bon, mon tunnel, j'ai un petit problème sur la date limite. C'est pour ça que j'aurais besoin aussi de certains outils. Et donc là aussi, j'en reviens à mon truc en disant, si j'avais fait plus de ventes, certains outils, j'aurais pu y accéder plus facilement. D'autant que j'aurais encore plus accédé à ces outils encore plus facilement si je n'avais pas eu un troisième problème sur le mois de novembre. Quelque chose qui est apparu au grand jour et avec l'aide de ma comptable. Et c'est ma comptable qui m'a envoyé un mail la dernière fois. Vous savez que je suis en coopérative d'activité, dans une coopérative d'activité. En fait, j'ai il y a une comptable et tout qui fait les. Moi, je suis payé en salaire en fait. Hein. Donc, mes clients me payent directement à la coopérative d'activité et je fais des factures par la coopérative d'activité. Les clients payent à la coopérative qui me reverse un salaire. La comptable me dit, t'as quand même beaucoup d'impayés. Alors, quand je dis beaucoup d'impayés, je parle de plusieurs milliers d'euros. Et en fait, depuis plusieurs mois, je me focalise sur un impayé de 500 euros. Depuis plusieurs mois, j'ai un impayé d'un sponsor, 500 euros. Il m'avait payé une première facture, il n'a pas payé la deuxième, et on devait avoir un partenariat long terme, et puis on a arrêté le partenariat plus rapidement, et il n'a pas payé la deuxième facture. Alors que moi, les épisodes de podcast sont en ligne, tout ce que j'ai fait devait faire est fait, et il ne paye pas, et il ne répond pas à mes mails. Ça m'énerve parce qu'en fait, il m'a ghosté sur le truc, j'ai envoyé plusieurs messages. Avant, il répondait vite, là, il ne répond jamais. Jamais. Et ça m'énerve. Et émotionnellement, en fait, il y a une charge émotionnelle sur cette facture-là, sur cet impayé-là, qui fait qu'en fait, je me suis focalisé dessus. Vous voyez ? Et ça, c'est un truc, en fait, qui biaise, en fait, la visibilité, ou la vision, plutôt, la vision qu'on a des choses. C'est-à-dire que l'émotion que j'ai placée autour de ce bout de facture impayée m'a empêché de voir le reste. Et l'empêché de voir le reste, c'est que je me focalise sur 500 euros, alors que chez d'autres, j'en ai beaucoup plus à aller chercher parce que eux non plus, en fait, n'ont pas payé les factures. Alors, certains, ça serait peut-être parce que, il y a des factures qui partent en Allemagne, il y a des factures qui partent en Suède, il y a des factures pour la publicité, des choses comme ça, puis il y a des factures qui partent pas très loin. Alors, il y a des partenaires, les personnes qui géraient ça ont changé. Par exemple, mon interlocuteur a changé. Est-ce qu'il a bien transféré les factures à la compta? Est-ce qu'il faut que je retransfère les factures? C'est les questions qui sont à poser. Et puis, pour un autre, ça part en Allemagne, il faut des mentions spéciales. Au début, ils voulaient même que je fasse les factures en allemand. Je leur dis, je peux pas faire les factures en allemand. Mais, en tout cas, il y avait un truc là où à un moment, ils m'ont dit, oui, mais il faudrait mettre telle mention maintenant dessus. D'accord, mais est-ce que les anciennes factures n'ont pas été payées parce qu'il n'y a pas la mention? Ça, c'est quelque chose que je dois creuser. Seulement, là, c'est pas une facture pour l'un des partenaires. On est à 8 ou 9 factures, dont certaines factures qui n'ont pas été payées à un moment donné, d'autres ont été payées ensuite, puis d'autres à nouveau pas payées. Enfin, truc bizarre. Donc, faut refaire un point en fait sur tout ce qui a été payé, pas payé. Donc, ça fait quand même un bon petit bout de travail. Donc, là aussi. Pareil, même chose. C'est-à-dire que sur le mois de novembre, alors j'ai fait mes relances, j'ai renvoyé des mails à certaines personnes, j'ai fait le point, j'ai dit mais quand est-ce que ça va être payé, dites-moi et tout. Parce que là, pour moi, c'est extrêmement important aussi, parce que bien sûr, c'est mon salaire qui va en dépendre. C'est-à-dire que c'est une question de trésorerie. C'est-à-dire que si on me paye pas là-dessus, après, moi, j'ai pas la trésorerie derrière pour que mon salaire soit assuré. Donc là aussi, ça veut dire que sur 2024, vraiment sur 2024, eh ben il y a forcément quelque chose que je dois faire différemment. Notamment sur certains partenaires, tout simplement, peut-être revoir les choses à l'avenir, de dire peut-être que sur certains sponsoring, vous pouvez commencer par payer un tiers à la commande. Ce que je faisais à une époque en freelance, hein, sur certains clients, je demandais un tiers à la commande, ce qui n'empêchait pas certains impayés, hein, parce que j'ai eu le cas d'une personne qui a bien payé le premier tiers à la commande, qui n'a jamais payé les deux autres tiers. Voilà, ça c'est arrivé. En fait, grosso modo, on peut dire que depuis que je suis freelance, hein, on va dire depuis 12 ans maintenant, j'ai eu 2-3 gros impayés, dont une. En fait, les deux sociétés ont mis la clé sous la porte. Et comme on est très loin, donc au début, c'est des petites factures, mais je sais pas s'ils l'ont fait à beaucoup de gens. S'ils l'ont fait à l'État, c'est l'État qui récupère d'abord l'argent. Ensuite, les sociétés n'existent pas, donc ça veut dire que l'argent, il est. C'est fini, quoi. Ça a disparu. Donc. Il y a eu 2-3 cas comme ça, toujours un petit peu sur ce truc-là. J'ai vu, il y a pas longtemps, quelqu'un qui disait que lui, il faisait payer 100% dès la commande. Tac. Mais j'ai vu une autre personne qui s'est dit que lui, s'est retrouvé avec 10 000 euros d'impayé il y a pas longtemps et qu'il les retrouvera jamais non plus parce que le mec en face est un margoulin. Donc je me dis, bon, l'un dans l'autre, on a tous hein, ces gestions-là. Mais peut-être que je dois aussi revoir quelque chose en 2024 pour éviter, d'une part, d'être biaisé par mes émotions sur faire une fixette sur une facture et pas sur les autres factures et pas sur la globalité, c'est-à-dire avoir une vision plus globale et pas juste sur un seul point, et puis aussi sur dire il y a peut-être des gens, je vais les faire payer en avance au moins une partie, une fois qu'ils sont engagés dedans et d'autres, et au moins j'ai une première partie de la somme, ce qui permet d'assurer la première trésorerie en attendant que la suite soit payée. Tout que certains, hein, ils payent non pas à 30 jours, ils vont payer à 60, j'ai même des gens qui veulent payer à 90 jours. Le pire que j'ai eu, c'était les facultés quand j'étais payé par la fac. J'ai eu un jour une facture qui a été payée. Alors, je sais pas combien de temps. Alors, c'est pas vraiment des factures, mais les clients de factures qui auraient été payés genre 400 jours après. C'est-à-dire qu'ils ont mis plus d'un an à payer un truc. Quelques heures de cours qui étaient faits à droite à gauche. Et j'ai mis plus d'un an pour arriver à me faire payer ce truc-là. Bon, bref, ça arrive comme ça. Quand des écoles, par exemple, en école de commerce, c'est un truc qui m'était jamais arrivé. Hein. J'ai envoyé la facture, j'étais payé quasiment. Alors pas tout de suite, mais assez rapidement. Là, c'est voilà, j'ai eu des cas comme ça. C'est toujours pénible. Hein. On a beau dire, il paraît qu'il y a des opérations de prévention, que l'État demande aux entreprises de payer, qu'elles sont sanctionnées si elles payent pas et tout. Toujours est-il que pour l'instant, il reste encore ce cas-là, qui est des fois, c'est pas de la mauvaise volonté de leur part aussi. Hein. Ça veut dire que un contact a changé, une personne est partie, par exemple, une personne à la communication de l'entreprise est partie. Est-ce qu'elle avait transmis les factures à la compta? Ça, on ne sait pas. Quand je demande à la personne, elle me dit je ne sais pas, et donc je faut retransmettre. Il y a du délai. Moi, j'avais attendu 60 jours en me disant ici paye à 60. Voilà. Quand je vois que ça arrive pas, mais toujours est-il que à la fin, c'est en moi que ça trinque cette histoire-là. Et ça pose problème. Ensuite, ça, c'était plutôt le côté un peu les trois grands points. Voilà, les trois grands points que je dois surveiller. Donc, un, les offres. Deux, les mails. Trois, la gestion de la trésorerie, qui est vraiment un élément important. Pour autant, il y a quand même des choses sur ce mois de novembre. Hein, qu'on peut dire, il y a des trucs qui sont cool. Et notamment, c'est que sur ce mois de novembre, si vous me suivez sur Instagram, vous avez peut-être vu, je me suis mis à diffuser plus d'illustrations et de dessins. Ça, c'est un grand vaste sujet. Il y a 2-3 ans maintenant, j'ai fait un épisode de podcast dans lequel je dis « je ne sais pas dessiner, mais c'est ma faute ». C'est-à-dire que pendant des années, j'ai dit que je ne savais pas dessiner, puis à un moment donné, je me suis dit « j'aimerais bien dessiner ». Donc, je me suis mis à redessiner, je me suis acheté des feutres, des cahiers, je me suis mis à dessiner, à faire des ronds, à faire des personnages. J'ai mon petit personnage, j'arrive à faire certains trucs. Mais je voulais aller plus loin. Et en fait, le aller plus loin, j'étais un peu bloqué dans ma capacité à faire des choses, parce qu'il y a des choses que je veux faire. J'avais beau prendre mes feutres, mes charpies, tout ça, je n'arrive pas à le faire. Depuis quelque temps, je me suis mis dans un... J'ai suivi des vidéos et tout pour dessiner avec un logiciel qui s'appelle Excalidro, qui est un site en ligne, qui est gratuit, hein, sur lequel on peut dessiner avec des carrés, des ronds, des courbes. Et ça fait une imitation. En fait, c'était fait pour faire des diagrammes, des schémas, avec une imitation de traits dessinés à la main, ou avec des traits nets ou des traits dessinés à la main. J'avais fait des graphiques avec. J'avais même fait une vidéo peut-être un an sur comment on peut faire des jolis graphiques. On peut les faire sur Excel, on peut les faire avec Excalidro. Alors, la manipulation que je montre dans la vidéo, je n'arrive plus à la produire maintenant sur Excalidro. Bon, pourquoi, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça marchait. Et puis, dans leur aide, ils le disent. Est-ce que c'est mon ordinateur? Faut que je reteste. En tout cas, c'est un truc. On pouvait faire des jolis graphiques qui, au lieu d'être des graphiques Excel, c'est comme si vous faisiez des petits diagrammes dessinés à la main et tout. C'était sympa. Et mais en fait maintenant je me mets à faire d'autres dessins. J'illustre mes pensées avec ça. Et donc ce que j'arrivais à faire dans mes mails où je dessinais ça sur ma tablette avec mon stylet sur une application de dessin, où j'essayais de faire tant bien que mal les personnages comme je pouvais et tout. Là j'arrive à faire des vrais personnages. J'arrive à faire des personnages. J'arrive à prendre des modèles à partir de photos. J'ai même réussi à faire mon autoportrait. Et donc j'en mets maintenant sur mes mails systématiquement. J'en mets dans mes réseaux sociaux. Je me rends compte même d'ailleurs sur Instagram que ces illustrations font des fois 200, 250 j'aime, voilà. Et puis que même plusieurs semaines après leur publication, elles font encore des j'aime. D'où d'ailleurs, c'est bien dommage que dessus, j'ai pas mis un mot-clé en disant si vous avez apprécié mettez le mot Sam pour avoir le programme Sam. Voilà, encore ce truc-là. J'en ai fait des illustrations simples. J'ai fait une BD qui a déjà été publiée. J'ai une autre BD là qui est en cours de, qui est faite. Voilà, j'ai pas publié, mais elle est faite. Elle est, je la trouve sympa, tout. Elle rigote avec un nouveau personnage, avec des nouveaux personnages qui sont là-dedans. Donc pour l'instant, c'est des planches de BD. Hein, mais un jour, allez savoir si je pourrais pas faire un truc un peu plus complet. J'ai fait aussi un réel à partir d'un dessin. Là, j'en prépare un autre avec un esprit Mario, Super Mario. En fait, j'ai réussi à reproduire l'univers en dessinant, en faisant mes trucs. C'est super sympa. Puis comme je maîtrise maintenant les personnages et que j'ai pu dessiner mes personnages, je suis capable de les animer en fait. Donc là maintenant l'étape suivante ça va être d'arriver à faire les petites animations. J'ai commencé à faire ça sur Canva, faire sauter le petit bonhomme et tout, j'arrive à le faire, déplacer des petits bouts de trucs champignons, c'est comme dans Mario, qui arrive à faire. Bon, il manque la sonorisation sur Canva, je n'arrive pas à la faire, à placer le son là où je veux exactement, c'est pas terrible. Donc je pourrais passer par un autre outil, mais en tout cas, j'arrive à faire des trucs, ils sont super sympas. Pour moi, surtout, c'est que c'est une autre manière de réfléchir, de m'exprimer, d'arriver à produire des nouvelles choses, à faire visualiser aussi mes idées. Il y a des choses que je n'arrivais pas à faire. Par exemple, j'ai fait un truc autour du poids, ma vision de mon ventre, par exemple. Bah, je n'arrivais pas à le faire avant. Parce que c'était en photo, je pouvais pas trop l'expliquer. En texte, c'était compliqué. Et puis, avec mes anciens dessins, je pouvais pas le faire. Là, j'ai pu le faire assez clairement. Et c'est fait partie des images, par exemple, qui ont eu pas mal de succès. Qui me permettent aussi de me différencier. C'est-à-dire que quand on regarde mon compte Instagram, par rapport à ceux qui sont dans la course à pied, dans le sport, dans leur mise en forme, eh ben, mon compte est un peu différent. Parce qu'il y a ces illustrations. Parce que, y a pas que des reels avec des conseils. Il y a pas que des photos avec des temps, avec des médailles ou des dossards. J'en ai très peu en fait là-dedans. Il y a aussi des dessins qui permettent d'illustrer des pensées, qui permettent de montrer des schémas, illustrer en fait mes grands principes, hein, ce que je fais, ce que je propose, comment je le propose et tout. Et ça, c'est vraiment un élément de différenciation. Donc je suis très content de ça. Sur le mois de novembre, j'ai fait un dessin par jour. Donc ça veut dire que à peu près, je me prenais une demi-heure, une heure tous les jours, des fois un peu plus, des fois un peu moins, des fois le soir par exemple, devant la télé, en regardant un petit documentaire ou des choses comme ça, enfin voilà, des fois le matin aussi, par exemple, dans ma routine du matin, je me suis mis à faire ça, par exemple, je lisais un bout de livre et puis ensuite je dessinais un peu sur l'iPad avec mon stylet, donc j'ai réussi à faire pas mal de trucs, ça me plaît bien, et puis je vais utiliser ces illustrations, donc sur Instagram, je l'ai dit, mes mails, LinkedIn aussi, vous pouvez en voir des fois qui passent, pour accrocher un peu le regard, et puis je vais en mettre dans mes formations. En fait, mes nouveaux programmes là que je suis en train de préparer, dont je vous parle, et ben en fait, toutes les illustrations sont faites. Elles sont toutes faites. J'ai même un des programmes, d'ailleurs, l'illustration que j'ai faite dans l'esprit Super Mario, là, je pense que je vais pouvoir l'utiliser en couverture d'un nouveau programme, ou soit d'un programme qui va sortir là, bientôt, soit d'un qui va sortir après début 2024. Mais en tout cas, j'ai les éléments pour le faire, un truc un peu original, un peu différent et tout. Et puis, pour illustrer des concepts, pour que le cahier d'exercice, en fait, soit illustré, qu'il y ait des petits dessins, des petits schémas, des choses qui accrochent un petit peu l'œil, etc. Enfin, que ce soit plus sympathique, quoi. Et que même les slides, mes PowerPoint, enfin, les clients de PowerPoint, soient un peu différents. Enfin, voilà. Tout ça, en fait, donner une patte, en fait, donner mon univers, un univers un peu différent. Je vais pouvoir le mettre aussi dans des e-books, dans des livres, tout simplement. Et puis, je pourrais le mettre aussi dans des produits dérivés. L'autre jour, j'ai fait un monsieur, un super peanut butter. Donc un pot de cacahuètes, de beurre cacahuète avec une cape en façon super-héros, et j'en cherchais une petite phrase à mettre. Donc là, j'ai demandé à ChatGPT de me sortir des phrases, il m'a sorti quelques phrases. Je lui demande de travailler pour me sortir un petit peu des slogans un peu rigolos, des petites blagues, des trucs comme ça qu'on pourrait faire, je pourrais accompagner. Mais pour l'instant, j'ai le dessin, en fait. Donc le dessin est fait, j'ai même plusieurs variantes du dessin. Je peux l'animer, je peux bouger les bras, je peux faire des choses comme ça. Et en fait, je me suis dit, tiens, je m'en ferais bien une tasse. Donc j'ai regardé sur mes produits dérivés, j'ai commencé à faire un premier modèle de tasse. Et puis je me suis dit, tiens, je pourrais faire un sweat, un t-shirt. Alors j'ai un doute sur, j'ai mis un ombré en fait, un endroit. Je me demande si l'ombré, ce qu'il va donner une fois qu'il sera imprimé. Donc il faudrait que je fasse un test en fait sur un t-shirt, sur un sweat, voir ce que ça donne. Parce que je suis pas certain que le rendu soit vraiment très bon. C'est vrai que la plupart du temps, quand on regarde par exemple des sweats, l'ombré, les effets ombré et tout, ne sont pas vraiment très présents dedans. Voilà, c'est fait partie des choses qui peuvent être un peu touchy en impression. Ça peut rendre pas forcément très beau. Mais je pourrais le faire sans cette version-là. Mais en tout cas, j'ai les droits dessus puisque c'est moi qui l'ai fait en fait. Donc c'est moi qui le fais. Le personnage n'existe pas. Des fois, je m'aide un peu de l'IA en fait en lui disant bah tiens voilà, j'imagine un personnage qui pourrait être ça, ça, ça. Donne-moi quelques idées de personnages. Donc il me donne des idées de personnages qui ça me donne des idées pour essayer de créer la suite. Et à partir de là, je redessine, je fais mes petits dessins, j'adapte et tout. Voilà, tout ça. Et donc ça, je vais le continuer. Forcément, je vais continuer ça parce que je trouve que d'une part, ça me donne, moi, une nouvelle forme de créativité. Ça me donne de nouveaux outils pour m'exprimer. Ça me donne de nouveaux outils pour me différencier, pour avoir une marque un peu différente, pour exprimer les choses différemment, pour montrer aussi ma différenciation, pour attirer l'œil, pour avoir un compte Instagram différent. Enfin voilà, tout ça, c'est, je trouve, assez intéressant. Donc, il n'y a pas que du négatif sur mon mois de novembre, quand même. Il y a eu des trucs aussi positifs et ça en fait partie. Pour terminer, je voulais vous parler aussi de ma lecture du moment. C'est le livre Feel Good Productivity de Ali Abdal. Je l'ai commencé il y a 2 jours. En fait, j'ai reçu il y a 2 jours. Le sous-titre français, c'est Comment faire plus de ce qui compte vraiment pour vous. Alors, Ali Abdal, si vous ne le connaissez pas, c'est un Anglais qui doit être d'origine indienne, je crois. Il me semble que c'est indien. D'Indienne, sa famille, qui était à l'origine docteur, docteur Ali Abdal, en fait, qui pendant qu'il est devenu, il le raconte un peu dans le livre aussi au départ, pendant qu'il était ses études de médecine et puis qu'il était interne et tout, il a cherché à gagner en productivité, comment apprendre mieux, comment travailler plus vite, comment concéder des études très lourdes. Il a cherché à optimiser tout ça et puis il s'est rendu compte en fait que être docteur, c'est peut-être pas ce qui lui plaisait le plus, mais par contre, ses vidéos ont eu beaucoup de succès. Mais vraiment, c'est des millions d'abonnés, hein. Et puis il a fait des formations sur comment devenir youtubeur à temps partiel d'ailleurs, c'est-à-dire que quand on a une activité principale, comment on peut faire une vidéo YouTube, comment on peut structurer ça, comment faire des vidéos à sa manière, comment faire la créativité à sa manière. Il a un podcast dans lequel il a reçu des invités assez intéressants d'ailleurs, hein, parce que son podcast grossit, sa visibilité grossit. Donc il a sorti aussi son livre. Il n'est plus médecin, hein, il a une équipe autour de lui, il n'est plus médecin. Là, il est même maintenant un peu nomade digital, je crois. Il est parti avec ses micros, valises et tout, à droite à gauche, parce qu'il était à Londres. Et je crois que là, il bouge maintenant. Donc bref, c'est un personnage très intéressant, Ali Abdal, qui parle un peu vite. C'est rigolo que moi je dise ça, et qui, mais bon, comme c'est en anglais des fois et tout, mais qui a vraiment en fait une personnalité sur la productivité, sur les outils qu'il utilise, sur la capacité aussi à apprendre des méthodes, à les rassembler les unes les autres, tout, qui est vraiment intéressant. Et donc il a sorti ce bouquin. La version française du bouquin sort dans quelques semaines, mais parce que je suis partenaire de la maison d'édition qui sort, j'ai accès en fait à une version qui est pas tout à fait corrigée. En fait, l'idée, c'est de relire le livre, non pas pour faire correcteur, mais pour dire ce que j'en pense. C'est pour les témoignages qu'ils mettent dans les bouquins, sur les pages de vente et choses comme ça. Je vous donne les coulisses. Et donc, le livre, donc j'ai reçu il y a 2 jours, donc j'ai commencé à le lire. C'est un livre qui est vraiment très intéressant et qui a une autre approche de la productivité. C'est vraiment intéressant. Il raconte en fait que pendant ses études, il cherchait toujours à en faire toujours plus. Et il était vraiment dans la culture un peu, moi, ce que j'appelle la culture hustle des Américains, c'est-à-dire charbonner, en faire toujours plus, pas se reposer. Et que ses études de médecine, en fait, l'amenaient là-dedans, c'est-à-dire d'en faire toujours plus, toujours apprendre plus, travailler plus. Quand il était interne, il y avait toujours plus de travail, toujours à faire plus. Et que plus il en faisait, plus il avait le sentiment qu'il devait en faire de plus en plus et que c'était pénible. Et que, bah, en fait, le être médecin en hôpital tel qu'il a été, ça lui plaisait peut-être pas forcément sur cette manière de voir les choses. Et donc, en fait, il a, dans ses études, il s'est rendu compte à un moment donné que certaines personnes, notamment dans les courants de pensée positive, de psychologie positive, un courant que moi j'avais beaucoup regardé quand j'étais victime de harcèlement moral, parce que comment se remettre du harcèlement moral, du harcèlement psychologique, et ben j'avais pioché dans les outils de psychologie positive. D'ailleurs, j'en avais parlé à mon psy à l'époque en disant voilà, j'ai vu ça, qu'est-ce que vous en pensez? On avait discuté, je lui avais partagé des bouquins, on avait échangé. En fait, je lui amenais des bouquins toutes les semaines quand j'allais le voir. Oui, je le voyais toutes les semaines à un moment donné. On parlait des lectures. Qu'est-ce que je lis? Comment je lis ça? Pourquoi je lis ça et tout? Je lui avais proposé des bouquins, je lui ai recommandé des livres. Il m'a dit ah, ça c'est intéressant. En fait, c'était un club de lecture, mon psy. Et donc, tout ce truc-là, en fait, il a creusé un petit peu ce domaine-là. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il a trouvé en fait des méthodes de productivité où c'est pas toujours en faire toujours plus, mais c'est d'aller chercher le plaisir et les émotions positives comme carburant et comme énergie. Et moi, ça me parle parce qu'en fait, c'est vraiment ce que j'essaye de faire déjà par Sam, ce que j'essaye de faire dans ma vie tout court. Vraiment dans ma vie tout court. Et c'est aussi ce que j'appelle le running positif dans mon compte Instagram. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il explique dans son livre. C'est des choses que je mets en place, que j'ai mis en place dans le running. Par exemple, aller chercher la joie, le jeu, avoir un côté un peu un personnage dans lequel on est. Ça, c'est des choses, je voulais faire une formation à l'époque aussi, sur comment créer un contenu en étant avec les archétypes, à partir des archétypes, c'est-à-dire... il y a différents archétypes de rôles qu'on peut jouer ou de personnages qu'on est, de personnalités qu'on peut avoir. Il y a par exemple le poète, l'aventurier. Enfin, je donne deux grands trucs. Hein. Il y aurait le poète, l'aventurier, le sportif, le je sais pas quoi et tout. Donc lui, il a pris les études qui en montrent qu'il y en a 9. Il y en a d'autres qui en montrent que 4. Parce que j'ai un livre aussi sur le sujet où lui, il n'en prenait que 4. Il y a des livres qui en mettent 9. Les archétypes, je crois qu'il y en a 12. Enfin, bref. Selon les études, ils n'ont pas classé tout à fait pareil, mais en tout cas, c'est intéressant et c'est de dire, bah voilà, on a un type en fait de personnalité. Voilà, on peut dire l'aventurier. Il y en a, c'est le chevalier. Enfin voilà, on peut avoir des choses comme ça. Mon idée, moi, c'était de transférer ça, cette idée-là, de la transférer avec des personnages. Par exemple, l'aventurier, c'est Antonio Maximi ou Mike Horn. Enfin, quoi que Mike Horn, des fois, je dis, c'est un peu compliqué d'être Mike Horn. Antonio Maximi paraît plus proche, vous savez, quand il allait dormir chez vous, là et tout, il paraissait plus proche dans la capacité à ce qu'on se dit, on doit pouvoir faire la même chose que lui. Bref, je m'étais dit, on pourrait faire du contenu, un podcast, comment on pourrait créer des podcasts et des contenus en ayant cet esprit-là, en fait. Voilà, en disant, bah tiens, dans quel archétype je suis. Et donc lui, il en reparle, en fait, en disant, on peut se servir de ça pour approcher sa productivité et puis rajouter dedans du jeu, ajouter dedans. Alors, ajouter du jeu, c'est quoi? C'est un peu comme le sens des quêtes. Par exemple, on a une grande quête globale. Par exemple, moi, dans la course, c'est de revenir champion du monde de mon monde en finissant un marathon. Mais à l'intérieur, par exemple, des quêtes, de cette grande quête, il y a des petites quêtes. Par exemple, moi, mes petites quêtes, c'est de dire, bah, tiens, je vais aller monter au sommet de la petite montagne, je vais prendre un café là-bas, je vais aller faire ça, je vais faire ça, je vais découvrir un nouveau chemin. Bah, tous ces trucs-là, en fait, eh ben, il en parle dans le bouquin sur une version productivité, c'est-à-dire le mettre dans le travail. Il donne le cas, par exemple, d'un quelqu'un qu'il a eu, qui parlait comment il faisait ça quand il était salarié au McDo. Enfin, voilà, des choses comme ça qui sont assez intéressantes. Alors là, je vous ai parlé de 50 pages sur un bouquin qui fait 300. J'ai pas vu la suite, mais en tout cas, cette partie-là, elle me parle beaucoup. Vraiment beaucoup. La version française sort dans quelques semaines. La version anglaise, elle, est déjà sortie, je crois qu'il y a un mois ou deux. Ça peut être un beau cadeau de Noël si vous lisez l'anglais. Sinon, vous attendez la version française qui sortira bientôt. Mais en tout cas, c'est un livre que je vous recommande, Feel Good Productivity de Ali Abdal. Moi, vraiment, sur la partie que j'ai commencé à lire, vraiment, je trouve que c'est intéressant, qu'il y ait une autre approche. Ça nous change un petit peu des trucs. Il faut toujours en faire plus. On est vraiment sur l'approche, comment est-ce que les émotions positives, parce que moi, c'est ce qui m'intéresse beaucoup, en préparation mentale, comment est-ce qu'on déclenche des émotions positives notamment par la pensée, hein, et là je m'approche de l'esprit TCC, hein, des techniques comportementales, donc comment est-ce que des pensées déclenchent des émotions, et comment ces émotions et ces pensées vont déclencher des actions. Et ben, il manquait certaines briques. Et ben, les briques là, lui il en a, il en amène en fait, il amène des études, des ressources, des méthodologies, donc ça me permet de compléter mon arsenal, à la fois sur la productivité personnelle, à la fois sur ce que je peux vous apporter à vous quand je vous ai en coaching, en formation, ce que je peux mettre dans mes contenus, et puis ce que je peux faire à la fois sur du coaching business, podcastique, et du coaching en course à pied, parce que course à pied, c'est ta vie, etc. Et ce qui m'amène aussi à me dire, ces méthodologies-là, je peux l'appliquer moi aussi pareil sur ce que je viens de vous parler, sur mon chiffre d'affaires, sur par exemple mes offres, comment par exemple rajouter du jeu. Il y a des principes, hein, rajouter du jeu avec des quêtes, comment rajouter plus de jeu et enlever de l'enjeu, par exemple sur mes offres de produits, sur mes ventes, sur les abonnés mails, sur les messages, sur même la facture des impayés, comment je peux rajouter du jeu en me disant tiens, peut-être que je pourrais me faire un petit jeu. Je m'étais dit, en regardant les exemples, je me suis dit, peut-être que le petit jeu, ce serait de voir à combien, le plus rapidement possible, je peux me faire payer, par exemple, sur certaines factures. Quel stratagème je peux utiliser? Enfin, voilà, on pourrait utiliser des choses comme ça. Et ben, c'est exactement l'esprit de ce livre et ça va venir compléter un petit peu tout ce que je fais. Et là, c'est vraiment un grand bonheur, hein, d'avoir des bouquins comme ça. J'ai fini un autre livre qui s'appelle Le Code de Cyrus North, vous savez, qui fait des vidéos de... où là il y a un peu de TCC et beaucoup de stoïcisme, et ben celui-là maintenant j'enchaîne là-dessus. Vraiment, je dis, j'aime bien Ali Abdal. Franchement, j'aime bien Ali Abdal. Il y a un moment donné, je m'étais posé la question de prendre sa formation vidéo à lui, et j'ai pris plutôt une autre formation vidéo qui est très intéressante, qui est franchement très intéressante. Et puis j'ai pris celle aussi de Casinestat. Et donc j'ai perdu le nom de l'autre vidéo que j'ai pris, mais maintenant il est en Australie, mais voilà, c'est. C'est le gars qui a fait les documentaires sur le minimalisme. C'est pas les minimalistes eux-mêmes, mais c'est celui qui a filmé les documentaires. Et j'ai perdu totalement son nom. Il est très connu. Matt Davella. Voilà, Matt Davella. Sa formation est très très bien. La formation vidéo de Matt Davella est très très bien. Mais celle de Léa Abdal avait une autre approche qui était de dire comment est-ce que on peut devenir youtubeur quand c'est pas son activité principale. Et je trouve que c'est intéressant aussi. Mais c'est aussi l'approche de Matt Davella, hein, sur des choses en disant, pendant certains temps, il faudra trouver l'organisation pour le faire. Et c'est aussi mon approche que j'ai dans le podcast, hein. C'est-à-dire que si vous lancez un podcast et que c'est pas votre métier principal, comment faire plus de podcasts, comment produire plus d'épisodes, comment le faire dans le temps que vous avez, ça fait partie des choses que je fais en accompagnement, que je fais dans mes formations et dans mes programmes que j'ai, parce que j'ai des programmes autour de l'organisation, de la productivité et de tous ces sujets-là. Voilà, des fois, j'oublie de les appliquer et je me tape, les mains en disant « Mais pourquoi t'appliques pas tes propres conseils ?» Ce que je vais tâcher de faire, donc voilà, ça fera partie de mes grands mots, je vais mettre un grand mot, n'oublie pas d'être organisé sur ce qui est important pour toi. Mais je crois que par rapport, et là c'est la conclusion de tout ça, c'est que c'est important de se connaître et que quand vous arrivez en fait à cerner que vous avez un espèce de biais de cette manière-là, un truc qui peut être sur lequel, parce que tout le monde pense que je suis très organisé en fait. C'est-à-dire que quand j'ai demandé aux gens, on m'a dit « t'es organisé ». En fait, je suis pas organisé par nature. Je suis obligé de m'organiser pour arriver à faire des choses. Et ça, c'est un élément important. Mais il y a des choses pénibles que j'ai pas envie de faire. Et de rajouter du jeu, des quêtes, un peu d'amusement là-dedans, devrait m'aider, en fait, à remettre, en fait, de l'organisation les jours où je n'arrive pas à m'organiser comme je veux. Ça, c'est un élément qui est vraiment important. Et je pense que le fait de vous connaître comme ça est vraiment extrêmement important. C'est que on a tous des modes de fonctionnement. Et dans son mode de fonctionnement, ce qui est important, c'est d'arriver à voir, en fait, ce qui marche bien pour nous, ce qui ne marche pas pour nous, et de, c'est pas parce qu'une méthode est utilisée par plein de gens qu'on doit forcément l'utiliser. Par exemple, moi, GTD, j'ai fait du GTD, je connais GTD par cœur et tout, mais au bout d'un moment, GTD, ça me gonfle, ça remplit mes logiciels avec des centaines de tâches. Peut-être un jour, je me suis retrouvé à 200, 300 tâches à faire. Et en plus, ça, c'était récurrent parce que sur la production d'un podcast, il y avait plein de tâches qui se répétaient et tout. Et ça me gonflait, je me disais, mais c'est pas possible. Et ça devenait contre-productif. Pomodoro est plus intéressant pour moi sur certains aspects. D'ailleurs, quand je prends un livre sur le TDAH, par exemple, Pomodoro fait partie des choses qui sont recommandées. Bizarre, tu vois, ça fait partie des méthodes qui, pour moi, fonctionnent bien. Et je le dis, hein, ça fonctionne pour plein de gens, mais il y a des gens pour qui le Pomodoro ne fonctionne pas, sur lequel, dans les tâches créatives, Pomodoro est moins intéressant, mais sur les tâches administratives, par exemple, Pomodoro peut être très intéressant. Donc, il faut quand vous trouvez des méthodes comme ça, vous prenez les méthodes, vous les testez un peu, vous regardez ce qui marche, vous gardez ce qui est bon pour vous, vous enlevez le reste, c'est pas grave, et puis vous prenez d'autres choses. Et puis quand vous trouvez des méthodes qui vous permettent de mieux vous comprendre, mieux vous connaître, des tests genre Clifton Strengths et compagnie qui vous donnent un peu des traits de personnalité, essayez après de regarder en fait de comment vous pouvez vous en servir pour arriver en fait à construire votre productivité. Le but du jeu, je vous le rappelle en fait, hein, c'est que là, hein, si vous voulez vous lancer, si vous voulez créer du contenu en ligne, si vous voulez créer une entreprise, si vous voulez créer une activité, si vous voulez vous lancer dans le coaching, développer votre podcast ou tout faire, vous devez être organisé pour faire des contenus, pour récupérer des mails, pour faire des offres et des produits, pour vendre, pour facturer. Tout ce que je viens de vous dire là, aujourd'hui, si je vous en parle, c'est parce que moi, en fait, en ne faisant pas attention à certains de ces aspects-là, je me rends compte que ça met en danger l'ensemble de ma vie et de, en fait, cet équilibre que je construis autour de ma création de contenu. Vous, si vous voulez vous lancer, ou si vous êtes lancé, si vous voulez développer, si vous voulez aller plus loin, n'oubliez absolument pas ces points-là. Vous dire, bah oui, j'ai une chaîne YouTube, c'est bien. Qu'est-ce que je fais des abonnés de ma chaîne YouTube? Est-ce que je pourrais pas collecter quelques mails? Est-ce qu'avec ces mails, je pourrais pas leur envoyer des choses? Ça marche dans tout ce que vous faites. Si vous faites de la photo, si vous faites de la domotique, si vous faites du développement personnel, si vous faites du coaching, si vous faites un sport, quel que soit le sport ou quoi que ce soit, ça marche pour tout, même si vous n'avez pas l'impression. Moi, si par exemple, je sais pas, je vous dis une bêtise, parlons de domotique, vous savez, mettre des lumières, par exemple, qui s'allumeraient quand je leur parlerai. Si je suis totalement débutant dans le domaine, eh ben, si je tombe sur une chaîne YouTube qui m'explique comment faire, c'est bien. Mais si la chaîne YouTube m'envoie des mails régulièrement en me disant, bah, tiens, dans les mails, je vais te proposer les produits, des promotions sur des produits que tu peux acheter en affiliation, par exemple, sur des nouveaux produits qui sortent, sur des tests, sur les nouvelles vidéos qu'il fait et tout, ça peut être intéressant. Et si un jour, dans ces mails-là, on me dit, bah, tiens, je te propose une formation pour faire ça de A à Z, comment faire ça de A à Z avec les différentes étapes, et que c'est vendu et que j'ai besoin de faire ça, eh ben je pourrais l'acheter. Et donc, si vous imaginez ça, là je parle de domotique, sur la photo c'est pareil, sur la pâtisserie c'est pareil, sur les gâteaux c'est pareil, sur le coaching, le développement personnel c'est pareil, sur le changement de vie c'est pareil, sur tout c'est pareil. C'est créer du contenu, faites-vous connaître, créez votre marque personnelle, créez du contenu. Mais n'oubliez pas que ce contenu que vous créez, notamment sur les réseaux sociaux, du podcast, du blog ou quoi, il faut arriver en fait à amener les gens qui adorent ça vers des mails, entretenir la relation et ensuite vous pouvez leur proposer d'autres choses. Des fois c'est recommander un livre que vous avez lu et mettre un lien vers Amazon en affiliation. Ça vous paraît peut-être rien, mais en fait quand je regarde régulièrement, Amazon me fait un chèque cadeau. En disant bah tiens vous avez ça et tout qui a été vendu, et ben l'un dans l'autre comme ça, c'est ça fait partie de aussi de c'est si vous avez besoin d'un peu de matériel, un livre ou quoi que ce soit par exemple, et ben ça peut être intéressant. Et puis vous pouvez vendre aussi des produits, le faire de cette manière là mais ne faut pas faillir sur les points que je vous ai donnés, de bien faire des offres régulières, de bien être organisé là dessus bien produire du contenu régulièrement, bien faire des offres régulières et bien amener les gens sur vos bases mail, et à partir de là vous pouvez enclencher la suite qui va avec. C'est la grande leçon de ce que je voulais vous dire. C'est pour ça que je vous parle de mes erreurs. Je vous parle de ce truc-là, c'est parce que c'est extrêmement important de ne pas le zapper, de ne pas oublier ce truc-là. Sinon, on n'y arrive pas. Moi, je l'ai vécu pendant des années, où j'ai vu, où je m'empêchais de faire certaines choses, parce que je pensais que je n'étais pas compétent pour le faire, par exemple des formations, des programmes en ligne. J'ai mis des centaines d'épisodes à me dire je peux faire une formation sur le podcasting pendant que des personnes qui ont fait 20 épisodes de podcast et même des personnes qui n'ont jamais fait de podcast sont coach en podcast. Enfin voilà, moi c'est un truc qui est épatant chez moi, qui est épatant, et je me dis mais comment ils font, et je ne pourrais pas le faire. Mais moi j'ai eu l'inverse, c'est-à-dire d'attendre trop longtemps, et tout ça maintenant en fait je sais comment ça fonctionne, je sais comment le faire. Mais des fois, c'est vrai que on est porté par une énergie un peu mauvaise, une énergie un peu de fatigue, différents éléments, ou alors on se laisse un petit peu distraire, en fait, on sort un petit peu de son cadre. Et dans ce cas-là, c'est bien d'y revenir. Et c'est pour ça aussi que je vous dis, si vous avez mis en place l'organisation pour faire tous ces points-là, et ne pas faire comme moi et ne pas oublier de le faire. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une très belle fin de semaine, très belle journée, très belle fin de semaine. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao les créateurs.